Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Vous êtes d'ailleurs nombreux, 40% d'entre vous, à nous écouter hors des frontières de l'Hexagone français. Et les frontières, c'est justement le sujet de notre émission. Et j'ai le plaisir de recevoir le géographe Jean-Robert Pitt de l'Académie des sciences morales et politiques qui se propose de nous éclairer sur cette question des frontières. Bonjour, monsieur
bonjour.
Pitt.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes président de la Société de géographie et que, en tant que géographe, mais la géographie, ça recoupe beaucoup d'autres disciplines, l'histoire, la politique, les sciences humaines notamment. Que pouvez-vous dire sur les frontières? C'est-à-dire, existe-t-il des frontières naturelles, des frontières politiques, des frontières ethniques? Qu'en dit le géographe?
Oh, c'est un mot très, très polysémique. Frontière, c'est la limite entre deux réalités s'inscrivant à la surface de la Terre. Ça a même des sens métaphoriques plus complexes, psychologiques, etc. Il y a des frontières de toutes sortes. Il y a des frontières sociales, il y a des barrières dans la communication entre les gens. Donc, utilisons-le, si vous le voulez bien, au sens géographique du terme, c'est-à-dire ligne de discontinuité entre deux réalités terrestres qui peuvent être des réalités physiques ou des réalités humaines et culturelles non matérielles, mais qui pourtant s'inscrivent dans la réalité terrestre. Les géographes ont fait de l'étude des frontières une de leurs spécialités, et même à certaines époques, une des spécialités des géographes était de tracer les frontières. Je dis juste un petit mot parce que
vous avez évoqué
la Société de géographie et un de mes prédécesseurs, Emmanuel de Martonne, qui était membre de l'Académie des sciences, si je ne m'abuse, était spécialiste de la Roumanie et des régions de la Valachie en particulier. Et il était expert au congrès de Versailles en 1918-1920. Et c'est lui qui a tracé les frontières de la nouvelle Roumanie, du sud de l'ancien empire austro-hongrois, qui est l'auteur de la Yougoslavie, avec les conséquences malheureuses qui sont survenues dans les décennies qui ont suivi, parce que c'est pas si facile que ça de tracer des frontières et de dire aux gens, ici vous êtes chez vous, là vous n'êtes plus chez vous, surtout quand il faut les déplacer pour les mettre de l'autre côté de la frontière. Alors, revenons si vous voulez aux frontières naturelles, il y en a qui s'imposent évidemment entre la plaine et la montagne, entre la terre et la mer, entre l'air chaud et l'air froid, sauf que c'est jamais si clair que ça. Il y a peu de frontières, même entre guillemets naturelles, je vous expliquerai pourquoi je dis entre guillemets, qui soient aussi nettes que cela. Par exemple, entre la terre et la mer, il y a effectivement des endroits où les falaises tombent abruptes dans la mer. Donc là, la frontière est relativement, je pense, au calanque de Cassis, près de Marseille.
C'est
là,
ça.
Il y a une frontière relativement simple, si ce n'est que dans le temps, ça bouge. Puisque n'oublions pas que ces calanques se terminent souvent par des espèces de canyons qui dominent la mer, tout simplement parce que la mer était, il y a 15 000 ans, 100 mètres en dessous de son niveau actuel. Donc les vallées allaient beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc quand on fait de la plongée sous-marine, on tombe dans des vallées qui sont aujourd'hui ennoyées. Vous savez, la fameuse grotte Cosquer, je crois, qui se trouve dans les calanques de Cassis. Il faut plonger d'abord dans la mer, puis trouver l'entrée de la grotte, remonter, sortir de la mer. Et là, on est à l'air libre, mais à l'intérieur du massif montagneux. Donc ces frontières sont quand même mouvantes dans le temps. Et pas toujours, pour reprendre cette idée de frontière entre la terre et la mer, dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus mouvant. Regardez en Languedoc, vous avez des lagunes. Regardez tout le littoral vendéen. Regardez le littoral des Landes. Vous avez des espaces intermédiaires, des espaces mouvants, des espaces ambigus, dans lesquels on est entre la terre et l'eau. Est-ce que Venise, où est la frontière entre la terre et la mer à Venise? Quand les Vénitiens parlent de la terre ferme, c'est assez loin vers l'intérieur, c'est au-delà de la lagune et c'est là où vraiment la mer ne vient plus jamais. Mais entre la limite de la terre ferme où les Vénitiens avaient organisé leur espace agricole et puis le Lido et l'Adriatique, il y a tout un espace qui fait, je sais pas, une trentaine de kilomètres ou une quarantaine de kilomètres de largeur, qui est un espace amphibie, un espace ambigu, un espace. Regardez dans le monde tropical toutes ces mangroves. Est-ce la terre? Est-ce la mer? Et les mers viennent deux fois par an. Donc voilà, il y a beaucoup d'espaces intermédiaires. Plaine, montagne, c'est pareil. Il est très rare qu'une montagne se termine de manière abrupte au bord d'une plaine. Entre les deux, il y a des zones intermédiaires de collines, de moyennes montagnes. Les Alpes, c'est très caractéristique. Mais partout, pareil, c'est partout pareil dans le monde. Air froid, air chaud, nous sommes en hiver. Il se trouve que la France est traversée, balayée de courants variés. Il y a souvent des coulées d'air froid qui arrivent du pôle Nord, mais en même temps, elles rencontrent des vagues d'air chaud qui arrivent de la Méditerranée. Et entre les deux, ça fait un conflit, ça fait de la neige, ça fait de la pluie. Dans un premier temps, ça ne se mélange pas, puis après, ça se mélange. Donc c'est dans tous les domaines de la géographie physique, les frontières ne sont pas aussi faciles que ça à tracer. Peut-être en géologie, on pourrait dire, on passe effectivement d'une couche de calcaire à une couche d'argile, et là c'est relativement net. Hein, à un moment où le calcaire s'arrête,
oui, pas très
on
utile,
passe à l'argile. Si. Non, il y a quand même des frontières assez nettes, mais beaucoup de frontières sont plus floues qu'on ne l'imagine.
Est-ce que ça veut dire alors qu'il faut toujours l'intervention humaine, c'est-à-dire un accord entre les êtres, les hommes, les sociétés pour dire bah, à partir de là c'est chez nous et à partir de là c'est
alors,
chez
ça,
vous
c'est, donc là vous passez aux frontières humaines, aux frontières qui sont d'origine humaine. Les hommes se sont répartis, ont migré partout à la surface de la Terre, se sont répartis sur tous les continents, toutes les mers, etc., toutes les îles. Il y a des zones très habitées, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont intermédiaires. Il y a des espaces déserts, mais il n'y a aucun espace totalement désert. La trace de l'homme est visible partout, y compris aux deux pôles, nord et sud, à la surface de la Terre. Et bien souvent, dans le domaine humain, les frontières sont encore plus floues que dans le domaine physique. Et quand on veut les fixer très fortement sur une carte en disant « ici, c'était le pays, là, c'était l'autre », il est rare que ça dure très, très, très longtemps. Parce que les hommes sont mobiles par essence, comme d'ailleurs toutes les espèces végétales et animales. La vie est mobile à la surface de la Terre. Donc les hommes le sont autant. Et quand on veut les cantonner dans un espace, tant qu'ils y tiennent et qu'ils y vivent correctement, ça marche. Le jour où ils sont trop nombreux et où ils ont besoin de s'étendre, ça ne marche plus. Et la frontière, je pense à une frontière très célèbre dans notre histoire qui est le limès de l'Empire romain, au nord de l'Empire romain. Ce limès, il a tenu pendant 3 siècles, les 3 siècles de la Pax Romana. Le jour où les barbares germaniques, slaves ou autres, etc., ont trouvé qu'eux avaient besoin de terrains de parcours, avaient besoin de terrains vitaux, ils ont franchi le limès, et le limès a disparu. Donc les frontières, en particulier les frontières politiques, sont importantes, et je crois qu'il ne s'agit pas ni de les nier, ni de les trouver totalement absurdes. Elles ont leur utilité, elles permettent, y compris dans des cas très délicats, je vais dire une chose qui mériterait sûrement plus d'explications que je ne vais en donner, mais y compris dans cette fameuse frontière, cette muraille que Israël a édifiée aux frontières de la Cisjordanie, qui pose évidemment d'énormes problèmes géopolitiques et de rapports entre Israël et les Palestiniens, mais c'est une frontière qui a été jugée nécessaire par un État, à un moment donné, de son histoire, qui unilatéralement a décidé qu'il allait bâtir un mur pour que cette frontière soit très forte. Ça ressemble un peu, bien que les circonstances politiques soient très différentes, à ce que les Allemands de l'Est avaient fait à Berlin pour empêcher les Berlinois de l'Est de fuir tous vers l'Ouest. Donc, ils ont créé ce mur. Là, c'est très différent en Israël. Mais
c'est toujours la même idée.
Beaucoup de ces frontières très dures et infranchissables posent des problèmes. Et personnellement, je vais m'engager, porter un jugement de valeur. Je me réjouis qu'à l'intérieur de l'Europe, aujourd'hui, il n'y ait presque plus de frontières extrêmement étanches. Il y a des frontières qui ont une réalité politique, une réalité plus tellement douanière, même plus du tout douanière, mais encore une réalité politique. N'empêche qu'on les franchit très facilement. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir franchir les frontières sans avoir à sortir des quantités de papier, à montrer patte blanche pour franchir la frontière et surtout à être repoussé. Donc aujourd'hui, on circule librement partout dans notre Europe et c'est formidable. Alors la question, ce que je dis là, c'est à l'usage des Européens. Nous nous satisfaisons de cette liberté de circulation et de cette absence de frontières étanches entre nos pays, mais évidemment, ce n'est pas l'opinion qu'en ont les Africains, un certain nombre de gens du Moyen-Orient ou d'étrangers de partout à la surface de la Terre qui n'entrent pas si facilement que ça à l'intérieur de l'espace Schengen. Là, il y a encore une frontière qui n'est plus une frontière tracée. Si, elle est tracée sur la carte, mais on la franchit dans tous les aéroports internationaux. Quand on arrive d'Afrique en Europe, on peut arriver à Francfort, on peut arriver à Roissy-Charles de Gaulle ou à Heathrow à Londres. Et là, on arrive à l'intérieur de l'espace européen, la frontière est là. La douane, elle est là. C'est la douane entre l'espace non-Schengen et l'espace Schengen. Et là, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent sur la signification, la réalité et le fonctionnement d'une frontière politique majeure qui est la frontière de l'Europe. Comme par ailleurs sur l'autre continent, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a les frontières entre les États, les 50 États qui constituent les États-Unis, mais il y a une frontière majeure qui est la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique et qui est elle aussi barricadée pour essayer, ce n'est pas une grande réussite, d'empêcher les migrations sauvages de Mexicains et de Sud-Américains vers les États-Unis.
Donc c'est un problème social, humain, qui fait aussi qu'on est obligé de mettre des frontières, mais est-ce qu'un jour on pourrait rêver que finalement l'homme
d'une
habite la Terre,
d'une planète sans frontières.
D'une planète sans frontières. Est-ce que c'est un rêve stupide,
Je reviens peut-être aux origines des frontières. Vous savez, tout être vivant, qu'il soit une plante, un animal ou un humain, représentant de l'espèce humaine, vit dans un territoire. Le mot territoire est un mot très que les géographes affectionnent beaucoup. Le territoire, c'est l'espace vital dans lequel on vit, donc, qui a des limites nécessaires, pas forcément suffisantes, parce qu'on peut être en expansion, mais qui a des limites nécessaires et dans lequel on se sent chez soi. Et bon, c'est difficile de faire de l'anthropomorphisme pour les plantes et pour les animaux, mais c'est quand même ça. Un animal qui marque son territoire, un animal qui marque son territoire, par exemple dans les animaux sauvages, hein, en forêt, avec de l'urine, par exemple, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment un certain nombre de jalons repérables par les autres membres de cette espèce animale ou d'autres espèces animales qui n'entrent pas, parce qu'ils savent que là, il y a danger, ou ça va provoquer un conflit. Et donc, les hommes, c'est à peu près pareil. Regardez, je vais prendre un exemple avec les adolescents. Quand on a des adolescents à la maison, dans une famille, ils ont une tendance très, très forte à marquer leur territoire par des objets insolites. Parfois, ce sont des chaussettes...
Oui, quand ce n'est pas des serpents, ça va bien.
Oui, voilà, c'est ça. Mais ils ont une tendance à, par une décoration très particulière, par des inscriptions, par des inscriptions sur la porte
de
leur chambre.
Mais c'est une nécessité dans l'évolution.
Oui.
Donc,
mais c'est une nécessité vitale, biologique. Vitale, exactement. Les plantes font exactement pareil. Vous savez, les plantes apparaissent. Parfum, c'est aussi une manière de marquer leur territoire, d'attirer des insectes pollinisateurs, parce que sinon elles ne pourraient pas survivre, mais c'est une sorte de territoire qu'elles créent. Et pour les plantes à parfum du monde méditerranéen, bien souvent, c'est aussi un moyen de se protéger par une atmosphère particulière contre les rayons du soleil trop forts.
Mais il y a aussi des plantes qui envahissent le territoire des autres, les algues par exemple.
Évidemment,
dont on parle
évidemment il y a les plantes invasives et puis il y a les plantes en régression. C'est ça la biodiversité qu'on a toujours un peu trop tendance, je trouve, du côté d'un certain nombre de gens peu informés et très militants, à considérer comme une donnée en soi intangible et à laquelle il ne faudrait pas toucher. Bien sûr que si.
Au contraire, on a toujours
touché à la biodiversité. On a toujours réduit, depuis que l'homme est actif, et d'abord avant même que l'homme soit actif, vraiment actif à la surface de la Terre, il y avait justement des espèces végétales ou animales en expansion et d'autres en régression. Les dinosaures ont disparu, l'homme n'en est pas responsable. Donc que certaines espèces vivantes progressent dans l'espace terrestre ou régressent, ça c'est la vie, c'est normal. Rien n'est stable dans la vie sur Terre. D'ailleurs, même dans le règne minéral, rien n'est stable non plus. Il y a l'érosion, il y a du volcanisme, ça bouge de partout, à des rythmes très variables d'un lieu à l'autre de la planète. C'est pour ça que ces frontières, même dans le domaine physique, ne sont pas faciles à tracer et ne doivent pas être considérées comme absolument stables, définitives et intangibles. Alors, dans le domaine de la climatologie, n'en parlons pas. On parle beaucoup de réchauffement du climat. Les frontières entre les zones où réellement ça se réchauffe, les zones où ça ne bouge pas, et les zones où, au contraire, ça se refroidit. Parce qu'il y en a.
Mais c'est
très variable dans le temps.
Voilà,
ce qui est vrai aujourd'hui en 2010 ne sera plus vrai en 2011 ou en 2012. Donc, faisons très attention à cette variabilité des réalités terrestres qui sont, et nous, pour moi qui suis géographe, c'est vraiment une partie importante de notre métier que de dire pourquoi les choses sont là et pas ailleurs, et pourquoi deux réalités terrestres, encore une fois, physiques ou humaines, démographiques, rurales, agricoles, urbaines, etc., pourquoi, à un moment donné, on trace une frontière. Par exemple, le cadastre, pour prendre une réalité agricole, c'est un document cartographique qui indique le changement de propriété. Donc, quand on trace sur un cadastre une ligne, ça veut dire que, d'un côté, c'est à quelqu'un, de l'autre côté, c'est à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une ligne qui tend que le document juridique est valable, est intangible. Le jour où le propriétaire de droite rachète la parcelle du propriétaire de gauche, la frontière entre les deux disparaît. Dans le paysage, elle peut mettre un certain temps à disparaître. Quand on circule en avion, en particulier au moment d'atterrir dans les grands aéroports français, je pense à Roissy ou Orly, on passe sur des zones agricoles et à certaines saisons, on voit très très bien dans les grands champs, puisque maintenant il y a des champs de plusieurs hectares dans le bassin parisien, d'un seul tenant, 10, 15 hectares d'un seul tenant, on voit encore, on devine des lignes, des tracés en dessous, qui sont les tracés de l'époque où les parcelles étaient beaucoup plus petites et qui, après les remembrements, ont été réunies. Donc toutes ces frontières sont mouvantes, c'est bien comme ça. Il faut savoir que tracer une ligne sur une carte, ça peut présenter un danger, et donc il faut faire très 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 attention quand on trace. À ne pas commettre d'injustice, il doit y avoir un certain consensus. C'est très dur de tracer une frontière, quelle qu'elle soit, quand il n'y a pas consensus.
Justement, c'est bien le problème d'un certain nombre de pays, par exemple en Afrique, c'est-à-dire que est-ce qu'on a demandé aux ethnies différentes un consensus pour former un pays ? Leurs problèmes viennent en partie de ce que les ethnies, justement, se sont trouvées regroupées dans des territoires qui n'ont pas de réalité. Comment pourrait-on dire
historique ancienne.
Historique ancienne, mais
même ça, historique ancienne, ça n'a pas tellement de sens, parce qu'il y a certaines constructions territoriales qui ont eu une vie extraordinaire, particulièrement réussie, et qui a donné satisfaction à la majorité des habitants, même si elles paraissent artificielles. Et l'Empire romain en est un magnifique exemple. Et je lisais récemment que les Turcs, sont, compte tenu du fait que les Européens leur font un peu la tête, sont nostalgiques de l'Empire ottoman maintenant. Ben, il faut bien reconnaître que l'Empire ottoman, même si on l'a appelé l'homme malade de l'Europe, enfin, ou du Proche-Orient, a pendant plusieurs siècles assez bien fonctionné, fait vivre ensemble des gens qui étaient d'origine balkanique, slave, des Grecs, des Arabes, des Persans, des Berbères, et bon, avec certes une autorité, mais arrivons à les faire vivre ensemble. Moi, la frontière de l'Empire ottoman a complètement éclaté en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Mais je crois qu'il y a des constructions territoriales abritées derrière une frontière qui sont vraiment intéressantes à une période donnée, mais que faire vivre un territoire avec des gens variés, vous évoquiez les ethnies africaines, je pense à un pays dans lequel j'ai vécu 2 ans, qui est la Mauritanie, c'est vrai que c'est toujours très très dur aujourd'hui de faire vivre ensemble des Maures nomades, habitants du désert et du Sahel, et des ethnies noires plutôt paysannes, sédentaires, du bord du fleuve Sénégal, qui sont les Wolofs, des Soninkés, des Toucouleurs et des Peuls. C'est très très dur de les faire vivre ensemble dans le même pays. Et entre les deux, entre les territoires des Maures et les territoires des ethnies sédentaires agricoles, la frontière n'est pas nette, les rapports sociaux ne sont pas nets non plus, il y a toujours eu des rapports de domination des nomades par rapport aux sédentaires, comme ça existe dans tous les pays du Sahel, comme ça existe au Niger, comme ça existe au Soudan. Parfois des différences religieuses, c'est pas le cas en Mauritanie, mais parfois des différences religieuses importantes, c'est le cas au Soudan, par exemple, avec des drames qui s'en suivent. Donc le Soudan est au bord de l'éclatement, et je dirais que, je connais pas assez bien la situation pour en parler en détail, mais je dirais que dans certains cas, ça vaut le coup de tracer une frontière plutôt que de forcer des gens à vivre ensemble alors qu'ils n'ont pas envie de vivre ensemble. Finalement, une nation pluriethnique, l'Europe est en train de devenir une nation pluriethnique, ça ne fonctionne que si les gens ont envie de vivre ensemble. À ce moment-là, la frontière...
Un consensus, voilà.
Consensus, oui. À ce moment-là, les frontières intérieures peuvent s'estomper, voire approcher de la disparition, voire disparaître complètement. Mais tant qu'il n'y a pas cette volonté, cette acceptation de vivre ensemble, on peut peut-être prendre des exemples français, si vous voulez, dans notre histoire, c'est pas la peine. On va prendre un exemple qui a fait couler beaucoup, beaucoup de sang, hélas, dans notre histoire, qui est l'exemple de l'Alsace et de la Lorraine, de la partie germanique de la Lorraine. Bon, la Lorraine elle-même, vous le savez, est une province tardivement entrée dans le royaume de France, très pacifiquement, par la volonté de Stanislas et par le mariage de Louis XV avec Marie Leszczynska. Bon, donc la Lorraine, par mariage, donc il n'y a rien de plus pacifique, hein, en dot, la princesse apporte un territoire, c'est magnifique, c'est très très beau. Et on ne fait pas la guerre. Dans d'autres cas, il faut faire la guerre. L'Alsace a été conquise par Louis XIV, à la suite, bon, il y avait eu des événements militaires, même si ça n'a pas été aussi dramatique que dans d'autres secteurs. Enfin, bon, l'Alsace devient française. Les Alsaciens l'acceptent très volontiers. Le 19e siècle, la fin du 18e et surtout le 19e siècle, la relation entre la France de l'intérieur et l'Alsace a été très, très apaisée. La ligne bleue des Vosges n'avait plus de réalité, ni linguistique encore, puisque les Alsaciens au 19e, dans les campagnes, parlaient l'alsacien et pas le français, mais ils étaient en train de s'intégrer complètement à la réalité française et d'aimer la France, tout en étant fiers de leur identité germanique sur le plan culturel. Et puis arrivent donc ces malheureux événements que nous connaissons, la guerre franco-allemande de 1870, l'Alsace et la Lorraine germanique se trouvent coupées de la France, avec ce drame absolu. Donc la ligne bleue des Vosges devient
une frontière
très, très, très ferme et infranchissable, avec ce drame absolu qui est le déplacement de population, c'est-à-dire cette acceptation par l'Allemagne des optants, c'est-à-dire des Alsaciens lorrains ne voulant pas devenir allemands et qui ont eu le droit de partir en France, ce qui a été le cas, par exemple, de mes arrière-grands-parents. Et j'essaie de me remettre dans cette idée, quand on a 17 ans ou 18 ans, qu'on est jeune Alsacien, fils de paysan ou d'artisan, et qu'on ne veut pas devenir allemand, et qu'on prend son baluchon, et qu'on part. Ce n'est pas une migration économique obligatoire, c'est une migration purement culturelle,
c'est
politique.
Un choix,
c'est
oui,
un choix très très, très, très fort. Mais quand on est jeune, ça n'est pas rien. Alors pour les garçons, on le comprend, parce qu'il y avait l'obligation de faire un service militaire lourd dans l'armée prussienne, ils n'avaient pas très envie. Mais pour les filles, c'est très étonnant quand même, hein, de se remettre dans cette situation. Et donc, ils franchissent la frontière sans espoir de retour. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, il y a encore des événements de ce genre. On en a vécu dans les Balkans il n'y a pas si longtemps. Et il y en a en Afrique, des migrations ethniques, il y en a partout, parce que sinon, c'est la mort. Si on ne sort pas du pays, on risque de mourir. Donc, malheureusement, ça existe partout. On sait bien qu'il y a des frontières qui ne sont pas acceptées par les habitants. Je pense au malheureux Tibet ou au Xinjiang, où il y a de vrais problèmes compliqués. Hein. Là aussi, je ne fais qu'effleurer
le
sujet. Je
on
ne
rentre pas dans les sujets politiquement, mais,
non, mais je ne veux pas, trop simplifier. Parce qu'il,
voilà, que on constate qu'il y a des, qui
posent,
des problèmes.
Beaucoup de frontières posent des problèmes. Il y a des frontières qui ne sont pas sûres. Il y a des frontières franchissables, mais dans des conditions. Je pense à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, qui n'est quand même pas une frontière très simple à gérer, avec ce qu'on appelle pudiquement les zones tribales, qui sont des zones de non-droit, où l'État balbutiant d'Afghanistan et l'État beaucoup plus fort du Pakistan ne peuvent pas faire régner la loi de leur pays. Voilà une frontière qui pose un... Il y en a plein des frontières qui posent des problèmes comme ça dans le monde. Il y a des frontières qui sont très, très militaires. Je pense à une des frontières les plus militarisées du monde. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois et qui est bouleversante, c'est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Oui, parce que alors, de côté Corée du Sud, je ne suis jamais allé côté Corée du Nord, mais il y a des miradors partout. Mais bon, certains sont, il y a des militaires partout, surtout c'est très très armé, très militarisé, mais il y a des miradors qui sont faits pour les Coréens du Sud qui viennent avec des grosses jumelles regarder la Corée du Nord. Et parce que beaucoup de familles coréennes ont été séparées par cette frontière en 1953, je crois, et sont bouleversées encore, enfin, vivent dans le drame total de savoir qu'ils ont des parents, des cousins de l'autre côté de la frontière. Et puis il y a eu ces tunnels creusés par les Coréens du Nord en vue d'envahir éventuellement la Corée du Sud. Donc on visite ces tunnels qui sont ultra militarisés. Donc il y a un peu de mise en scène autour de cette frontière. Mais il n'empêche que c'est une réalité extraordinairement forte et brutale, puisque d'un côté au Sud, on a une des grandes puissances du monde. Et de l'autre côté, au Nord, même ethnie, même culture, même histoire, on a l'un des pays les plus pauvres du monde et l'une des dictatures les plus brutales et les plus sanglantes du monde.
C'est un exemple, effectivement, de frontières tragiques.
Je ne crois pas qu'il y ait d'autres frontières plus tragiques que celles de la Corée du Nord et de la Corée du Sud aujourd'hui dans le monde. Il y a les frontières mal acceptées, mais celle-là, c'est un drame total et invraisemblable au XXIe siècle que ces choses-là existent encore.
On ne voit pas encore finalement de vrais progrès. Comme vous dites, c'est tout le temps, c'est
mouvant. Il faudrait nous consacrions une émission à la Corée. C'est un vrai sujet passionnant. Mais parce qu'il y a évidemment tout le contexte géopolitique régional qui explique ça. C'est-à-dire le rôle de la Chine, le rôle du Japon, le rôle de la Russie, le rôle des Américains. Bon, rien n'est simple dans ce domaine.
Donc
je ne fais qu'effleurer et dire que le sujet des frontières est un sujet majeur, inépuisable, mais qui demande de faire appel à énormément de facteurs physiques, humains, historiques.
J'avais envie de vous poser une ultime question et pardonnez-en la naïveté. Lorsque, par exemple, vous avez évoqué les traités après la Première Guerre mondiale, lorsque l'on fait comme ça des traités entre pays et qu'on décide de redessiner les frontières, est-ce qu'on fait appel à des géographes, c'est-à-dire à des gens qui auraient une compétence pour conseiller les militaires, si je puis dire, ou est-ce que les militaires sont géographes? Enfin, comment ça se passe?
Vous savez, d'abord, je vous ai dit, Emmanuel de Martonne avait participé à l'élaboration des frontières de la Yougoslavie et ce n'était pas forcément très, très heureux ce qui en est sorti. Yves Lacoste, mon collègue géographe fondateur de la revue Hérodote, avait écrit un petit livre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, il y a eu, je sais pas, 25 ans à peu près, qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Ce qu'il voulait dire, c'est que les militaires ont besoin de géographes pour faire la guerre. Mais moi, j'aimerais que la géographie, ça serve d'abord
à
faire la paix.
Ça
sert d'abord à faire la paix. Mais c'est certain qu'on n'a sûrement pas fait assez appel aux géographes et je nous reproche collectivement, à nous, corporation des géographes en France et ailleurs dans le monde, de ne pas être assez présents sur un certain nombre de terrains où nous pourrions utilement conseiller les gens. Par exemple, je vois sur l'Afghanistan, il y a un certain nombre de collègues géographes français qui sont de très grands spécialistes de l'Afghanistan. On n'a guère fait appel à eux. Alors, on peut toujours se dire, c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à se manifester davantage, écrire dans la presse, etc. Oui, c'est certain que quand on sait ou qu'on croit savoir un petit quelque chose, on a quand même intérêt à le dire. Et heureusement qu'il y a Canal Académie pour le dire.
Merci de nous avoir éclairés sur toutes ces frontières que peut-être un jour on peut voir disparaître, ou peut-être non. Peut-être qu'on pourrait aussi envisager de vivre tranquillement à l'intérieur de chacune des frontières. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, effectivement, merci beaucoup Jean-Robert Pitt de nous avoir éclairés. À bientôt sur une autre émission de géographie, puisque c'est ce que nous faisons dans cette émission. Je rappelle que vous animez régulièrement des émissions de géographie sur Canal Académie et qu'il suffit de taper sur notre moteur de recherche le mot géographie pour trouver toutes les émissions que vous avez bien voulu nous donner. À bientôt.
À bientôt et merci beaucoup.